bientôt.
Comment tu vas d'abord?
Ben, ça va, et toi?
Ça va, ça va.
Ça va?
Ouais.
Tu as l'air en pleine forme.
Ouais.
Il est assez tôt pour manger.
On est arrivé à 11h.
Donc, on va démarrer tout de suite le forum avec Marie-Cécile Plat, qui a rédigé donc les papiers, le combat de la dignité, avec des témoignages sur donc ces travailleurs sans papiers qui sont nos frères de classe. Nous allons démarrer tout de suite.
Il va lire un témoignage. Alors lui, il a intérêt. Hein. C'est notre ancien président devenu président d'honneur.
C'est ça.
Non, t'as dit notre ancien président d'honneur. Non, non, mais tu vieillis, c'est pas bien grave. Oui, oui, non, je vais...
Ah ben, si, si, je sais comment tu vas démarrer. Je le sais bien, j'ai déjà entendu.
Je sais pas où elle
suit, madame. Non,
j'ai
plus
le verre.
Adoulaye, avec moi.
Je veux les mettre tous.
Deux pour le cas où.
Tu veux me mettre où?
À côté.
À côté.
Toi, tu vas dire pour témoignage ou un autre, comme tu veux. Est-ce que tu veux?
Tu... Enfin, il faut quelqu'un d'autre?
Non, bah deux, ça va aller. Et puis les autres, ils parleront aussi.
Je veux dire.
Écoute, on va se mettre à deux à la tribune. Adama, il ne veut pas parler, donc il est très fatigué, Adama. Donc, il est très, très fatigué, donc il a eu un accident, il s'est à moitié broyé la main. Donc, il est venu vraiment parce que... Bon, mais, bon, tiens, bah, garde-le pendant ce temps-là.
Ouais, poussez le micro, parce qu'on vous entend se poser.
C'est pour ça qu'il faut que... C'est ça.
Bon, mais on va si démarrer. On lit un témoignage, que choisis celui que tu veux lire.
Un coup.
Un très court. Quand même, bonjour, pardon. J'ai une éternité pour le bâton. Abdoulaye, vous connaissez tous les deux.
Ouais.
Alors, écoute, bon,
là, ça marche. Là, ouais, c'est bon. Alors, donc, on va démarrer le forum avec Marie-Cécile Plat. Ce recueil donc, qui se trouvera en vente tout à l'heure à la fin du forum sur la table à côté, hein, que vous pourrez trouver. Donc,
le début du collectif.
Oui, c'est hein?
Dans le contexte d'aujourd'hui, avec ce qui se passe un peu partout et ce qu'on entend de la part des politiciens qui prétendent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On avait envie de rediscuter un petit peu de cette Europe impérialiste qui est en partie responsable de cette misère du monde, la fameuse misère, et permettre à ceux qui la fuient de vivre décemment ici ne serait que la plus élémentaire des justices. Ce ne serait pas la catastrophe annoncée, loin de là. Des migrations tout aussi importantes, voire plus, se sont produites dans le passé. Et loin d'être porteuses de difficultés, elles ont été un des facteurs de développement des pays d'accueil. Alors Marie-Cécile Plat, dans ce recueil, donne des visages et des voix à ces travailleurs sans papier, donc qui sont nos frères de classe.
Bonjour à tous. Ça va être très difficile de parler après le débat d'avant, parce que c'était quand même quelqu'un de remarquable qui était là. On va essayer d'être à la hauteur. Et on va parler d'une autre catégorie de la population discriminée, à savoir tous ces gens qu'on dit sans papier, c'est-à-dire tous ces gens qui sont ici et qui n'ont pas le droit de l'être. Alors on va partir du livre, et je passerai la parole après à Abdoulaye qui vous expliquera les débuts du collectif. En 2008, dans ce pays, sur les années 2008, 2009, 2010, il y a eu 6000 grévistes sans papier, 6000, dont certains ont fait jusqu'à 18 mois de grève. Et 18 mois de grève, ça voulait dire ne pas payer les loyers, ne pas envoyer d'argent au pays surtout, et subir au téléphone la pression des familles, parce que là-bas, ça voulait dire qu'on ne mangeait pas. Et c'était très, très, très difficile. Et sur ces 6000 grévistes sans papier, nationalement, il y en avait 2000 qui étaient localisés sur le 17e arrondissement de Paris. Alors, ils n'habitaient pas forcément tous sur le 17e, mais ils étaient tous rattachés au 17e par les boîtes. Par les boîtes d'intérim, par les grosses boîtes de nettoyage telles que la SAMSIC. Et dans le grand hall de la SAMSIC, à un moment, ils étaient 2000 à dormir. Et il fallait les nourrir. il fallait s'en occuper. Donc on a commencé à faire le buzz un peu partout, on faisait des marchés, on faisait des trucs comme ça, parce qu'il fallait manger. Donc on faisait les marchés pour ramasser des légumes, des sous, enfin de tout. Et c'était même assez rigolo à faire. Enfin, c'était... Vous imaginez nourrir 2000 personnes, quoi, quand même, tous les jours, trois fois par jour. Donc, et à ce moment-là, au foyer Saint-Just, qui est... quand on habite le quartier, on peut très bien vivre 20 ans sans voir ce foyer. Le foyer, il est coincé à la porte de Clichy, entre le cimetière et le lycée. Enfin, entre eux. Il y a un stade de foot, le périphérique, le cimetière et le lycée. Voilà. Et on peut très bien vivre 20 ans ou 30 ans dans ce quartier sans jamais savoir qu'il y a un foyer de travailleurs étrangers là-bas. Et au foyer, à ce moment-là, il y avait un certain nombre de gens qui avaient envie de créer un collectif, qui avaient participé à des tas d'actions et qui ont commencé à ce moment-là des démarches auprès de tous les politiques et tous les associatifs. Mais ça, Abdoulaye vous l'expliquera mieux que moi. Et ce qu'on a créé dans le 17e à ce moment-là, c'est la synergie de ce mouvement-là et de ce collectif qui s'est constitué sur la grève. C'est-à-dire que le 17e arrondissement était... le 17e arrondissement a été un endroit unique où on avait un comité de soutien aux grévistes, où tout le monde était présent. Grévistes, non-grévistes, français, étrangers, syndicalistes, associatifs, tout le monde. Voilà. Et je me souviens d'un jour, d'une réunion parisienne où Raymond Chauveau, la marionnette de la CGT, nous avait insultés en disant qu'on était des jaunes parce qu'on avait des grévistes et des non-grévistes ensemble. Et on a fondé un collectif sur une base, à ce moment-là, sur une base réellement démocratique, sur une base de lutte et de respect mutuel. On avait tout le monde, on avait tous les partis, on avait toutes les associations. On était tous là. Et on était tous là pour sauver la peau à ces 2000 personnes qui avaient besoin de manger, qu'il a fallu suivre. Alors il y a eu différentes synergies. Hein. Avant la deuxième grande grève, il y avait des grévistes qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient coincés entre le commissariat de police et la mairie sur une crèche. Ce qui est curieux, c'est que la crèche depuis a été construite et que une de nos jeunes recrues travaille dans cette crèche maintenant. Et il se trouve qu'à cette époque-là, il y avait 5 personnes dont les fenêtres donnaient dessus. 5 personnes de RESF dont les fenêtres donnaient dessus. On a presque tous été chassés par la spéculation immobilière d'ailleurs, mais à cette époque-là, on était dessus. Donc c'était pas possible de ne pas les voir, quoi. Et je me souviens, moi j'y avais été comme ça, quoi, en disant, on va les voir en voisin. Et je savais pas trop quoi leur amener, on leur avait amené une grosse pastèque, parce qu'on savait pas trop comment faire. Et vraiment. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour faire le buzz dehors, on a commencé à écrire des petits textes. Alors au départ, c'était des petits textes commandés à RESF pour Politis et pour Charlie Hebdo. Mais c'était 1200 signes. Et là, c'était pas possible. 1200 signes, enfin, vous allez voir très vite que je suis assez bavarde. 1200 signes pour parler de la vie de quelqu'un, c'était trop court, c'était vraiment trop. Donc on a commencé à faire des sortes de dadzibao, en fait. Donc ces textes, on les mettait sur des affiches et les gens les lisaient. Et puis, les gens qui voyaient leur vie comme ça s'apercevaient que leur vie intéressait les autres. Alors, on a eu l'idée d'en faire une petite brochure, puis un livre, et puis, enfin, bon, ça a pris des proportions, et puis ça s'est pas fait. Le livre ne s'est pas fait, pour toute une série de raisons techniques très, très compliquées. Et puis, les textes ont dormi. Les textes, tous les textes qui sont dans le livre ont un peu dormi. De temps en temps, il y a des textes qui partaient pour des cours d'alphabétisation. Parce que on a toujours beaucoup de mal à trouver des textes pour des adultes qui soient simples. Parce que quand on veut faire de l'alphabétisation avec des adultes, on trouve des textes pour enfants. Et le dragon et la princesse, quand on a 30-40 ans, on n'en a rien à faire. Et ces textes-là, ils sont simples et ils sont lisibles. Donc on a commencé comme ça. Et puis en juin dernier, il y a mon amie Martine Vernier qui m'a dit « Mais t'avais pas des textes et tout ?» et qui m'a emmerdée et qui m'a enquiquinée jusqu'à ce qu'on en fasse un bouquin. Voilà. Et le livre est sorti au mois d'octobre. Alors je vais laisser la parole à Abdoulaye qui va vous expliquer comment ce collectif est né. Et alors, bon, il y a donc des témoignages de gens et il y a aussi pas mal de textes sur l'école parce que moi je suis rééducatrice, ex-RAZED. Et je ne peux pas ne pas parler de mon boulot, je ne peux pas ne pas parler de la question de l'immigration à l'école. Et c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le livre. Donc c'est une série de témoignages, une série de textes, c'est aussi une série de mini-reportages sur des actions qu'on a faites. Et on a tout l'historique du collectif là-dedans parce qu'il y a les gens qui sont interviewés deux fois. Ils sont interviewés en 2008, ils sont réinterviewés en 2014. Donc on a aussi tout l'historique de ce collectif qui est, à mon sens, un collectif absolument exemplaire. Je ne veux pas dire qu'on est parfait, je ne veux pas dire qu'on gagne mieux que les autres, mais je pense qu'on a quelque chose à apporter à l'histoire. Parce que vous savez, l'histoire, quand on a perdu notre local RESF, il y avait quelqu'un qui avait écrit sur le mur, les murs tombent, mais les histoires restent. Or, les histoires, elles ne restent que si on les écrit. Et ces gens qui sont dans ce livre, ils ont fait l'histoire de France. Et à partir de maintenant, on ne pourra plus les oublier.
Voilà. Je passe la parole à Boulay qui est
okay. Merci beaucoup, chers camarades. Je m'appelle Abdoulaye, je suis originaire du Sénégal. Donc, ce collectif de sans-papiers qu'on a créé en 2009, parce qu'on s'est dit que voilà, on va réclamer nos droits, puisqu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes, des enfants qui sont là depuis 10 ans, qui travaillent, qui paient leurs impôts, et que voilà, sont exploités par les patrons, et qu'à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on revendique nos droits. Donc, on a créé ce collectif. Après, on s'est dit que, voilà, nous, tout seuls, les sans-papiers, on ne peut pas aller. Il faut aller chercher des soutiens, des gens qui nous aident, qui nous protègent un peu, en cas d'attaque, en cas d'arrestation et tout. Et c'est de là que nous avons connu, en tout cas, moi, que j'ai connu Marie-Cécile à travers du RSF. Et j'ai écrit aussi à beaucoup de soutien. Et je me rappelle bien que j'avais écrit à l'époque au maire du socialiste Bertrand Delanon qui nous avait répondu. J'ai écrit à beaucoup de personnes. J'avais même appelé à l'époque la secrétaire Hello. À l'époque, c'était Arlette Leguet qui m'avait envoyé une personne qui représentait Hello au début et qui est venue au CSP. Donc, quand on a créé le CSP, il fallait avoir du monde derrière, du soutien des Français, puisque nous, on se dit que voilà, on travaille, on construit des bâtiments, on travaille à la crèche, l'aide à la personne. Il y avait beaucoup de catégories, des femmes qui travaillaient, qui étaient déclarées, d'autres qui n'étaient pas déclarées, et que tout ce beau monde, si on doit lutter aussi, il faut que aussi les Français, puisqu'on se disait avant tout, on est des ouvriers, et qu'on participe à la croissance de la France, puisqu'on paye nos impôts, il y a la TVA et l'économie française. Si, en France, il y a plus de 400 ou 500 000 sans-papiers qui travaillent tous, et que les patrons veuillent exploiter certaines personnes en ne déclarant pas à l'URSSAF, aux impôts et tout ça. Donc, il y avait un peu du vol par rapport à l'État, mais aussi, il y avait aussi des non-droits, puisque étant sans papier, si on est blessé, on ne peut pas profiter de la sécurité sociale. Si tu es au chômage, tu ne peux pas bénéficier de tout ça. Et que du coup, on réclame la régularisation. Et c'est de là qu'on est parti en créant ce CSP avec le RSF, Marie-Cécile, qui nous a beaucoup aidé. Je me rappelle que quand elle a bien défini tout à l'heure que le foyer Saint-Just qui était entre le cimetière et le périphérique et en step, et que du coup, tous les soirs à 18h, il y avait la police qui se mettait là à côté et que les gens ne pouvaient pas sortir pour aller chercher du boulot, avaient peur de rentrer puisqu'il y avait la police à côté. Et du coup, elle nous a aidés quand même à travers son réseau et tout pour que ça s'arrête. Et puis ça s'est arrêté puisqu'on n'avait plus vu la police. Après, quand il y a eu les grèves, nous, on a participé à cette grève puisque c'était l'acte 1. Il y avait au sein de notre collectif, des camarades qui étaient grévistes. Mais aussi, il y avait d'autres camarades qui étaient non grévistes parce qu'ils avaient peur, en tout cas, de perdre leur salaire puisqu'ils avaient une famille derrière à nourrir. Il y avait d'autres qui, se sont sacrifiés et qui ont fait leur grève. Et nous, on a dit, on soutient tout le monde. On participe aux efforts de la grève puisque, on faisait des quêtes avec les grévistes. On les soutenait. Et les non-grévistes aussi, ça ne nous empêchait pas de faire nos réunions collectives, ça ne nous empêchait pas de faire les manifs. Et c'est de là qu'est né un comité de soutien unitaire dans le 17e, avec toutes les forces politiques qui étaient dans le 17e, les syndicats, les associations, les partis politiques qui nous ont soutenus dans notre lutte, jusqu'à ce qu'on ait des rapports avec la préfecture, jusqu'à ce que beaucoup d'entre nous soient régularisés, dont moi, et beaucoup d'autres camarades qui aujourd'hui sont régularisés. Donc c'est par cette lutte et le soutien de tous nos voisins et voisines qui nous ont aidés dans cette lutte qu'on a obtenu en tout cas des régularisations. Après, en tant que collectif de sans-papiers, on s'était dit que quand même, qu'à travers ce livre-là, de porter nos témoignages, de dire pourquoi on est venu en France, pourquoi on doit travailler en France. Pourquoi beaucoup de choses que certains Français ne comprenaient pas, que voilà, il y avait des gens qui avaient des bulletins de salaire quand même, qui avaient des fiches dépôt, qui avaient des logements, qui travaillaient, qui se levaient tôt comme tout le monde avec les ouvriers et qui travaillaient. Et de surcroît que voilà, à la fin, on avait besoin d'une régularisation, besoin de visibilité. Et cette visibilité-là passer nécessairement par certains Français qui vont acheter ce livre, lire le livre, savoir que quand même, que voilà, c'est pas comme on le dit souvent, que des gens qui sont venus profiter ou quelque chose d'autre. Non, on est venu travailler et on est des ouvriers avant tout, et on veut être considéré en tant que tel, qu'on paye nos impôts, qu'on bosse ici, qu'on reste ici et qu'on demande à être régularisé. C'est de là que ce collectif-là aujourd'hui continue et que dirigé par des personnes qui sont toujours là, qu'à chaque fois qu'il y a une personne président qui est régularisée, cette personne tout de suite elle cède sa place à un autre bureau qui dirige le CSP avec, en lien avec les partis politiques et les associations. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci.
S'il y a quelques questions, on va y répondre tout de suite, puis on reprendra après, peut-être. Parce que sinon, après, on va être pris par le temps, parce que moi, je peux vous parler pendant 3 heures, c'est pas un souci. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à demander tout de suite, ou autrement, je vous fais un petit bout de lecture. Bon, bah, un petit bout de lecture, hein. C'est alors il y a pas que des témoignages. D'habitude, on lit des témoignages. Catherine va en lire un après moi. Mais avant, je voudrais vous lire un petit texte qui s'appelait « Brève occupation de la mairie du 17e ». Comme ça, vous aurez une idée de ce livre qui n'est pas un livre triste du tout. Samedi 17 mai 2014, belle démonstration du CSP Saint-Just du 17e arrondissement de Paris ce matin. Accompagné de membres de plusieurs CSP régionaux, on a occupé la mairie pendant plusieurs heures. Je parle de la mairie du 17e, hein, vieille mairie de droite depuis des siècles. Je n'ose avancer un chiffre, mais je dirais au moins 400 personnes. Le tout s'est déroulé pacifiquement. On a offert une magnifique chorale aux mariés qui sortaient, pas par la grande porte, hélas fièrement gardée par les représentants de notre belle police démocratique, constituée en compagnie républicaine de sécurité. On leur scandait « mariage pour tous, papier pour tous ». Ils ne nous ont cependant pas semblé apprécier à leur juste valeur cet hommage. Moi, à leur place, j'aurais adoré, mais bon. La mère a dû, en haut des marches, serrer des louches à des grands noirs très effrayants, avec le sourire qu'elle affiche sur chacune des pages du journal de l'arrondissement. Pas sûr que ce moment historique se retrouve dans le prochain journal du 17e. Il n'y était pas. Hein. Quand ceux qui nous protègent ont enlevé leurs casques et ont cessé de tripatouiller leurs bâtons comme si c'était un appendice naturel, on s'est dit que ça allait le faire sans violence. La préfecture a appelé un délégué pour lui demander, sans rire, si cette occupation avait un rapport avec le collectif de sans-papiers. J'aurais bien aimé répondre que c'était pour protester contre la surpêche des dentiers usagés dans les caniveaux parisiens, ou bien pour promouvoir la culture des tomates non agréées sur les balcons des immeubles de moins de 6 étages. Plus haut, il y a du vent, c'est plus difficile. Mais notre camarade a répondu bien gentiment que non. Bref, nos camarades sont sortis sous les applaudissements de la foule en délire. Des promesses ont été faites. On verra ce qu'il en est, mais je gage que notre prochaine entrevue à la préfecture se passera un peu mieux. Alors, Catherine va vous lire un des témoignages, je pense. Un court.
Bonjour. Kwaku Afoué ou la dignité. Ce témoignage date de 2010. Kwaku est ivoirienne. Elle avait 55 ans à l'époque. Elle en a donc 60. Après la guerre, c'était compliqué pour moi. J'étais opposante au gouvernement. Par rapport à ça, j'ai fait une demande d'asile qui m'a été refusée. J'étais secrétaire assistante de direction et la banque a fermé. Après, j'ai été caissière dans un supermarché. La situation était difficile. En Côte d'Ivoire, après la guerre, à Bouaké, les assaillants, c'était le viol, le pillage, le meurtre. Ça a été horrible. Le pays a été coupé en deux, en trois, cassé la tête, plein de choses terribles et je ne veux pas rentrer dans les détails. Je suis venue en avion avec un passeport et avec un visa court séjour parce que pour venir, on est bien obligé de mentir. Ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait. La vie, quoi. Elle est belle, la France. On a toujours envie de vivre et de rester, mais par rapport à la régularisation, c'est comme si tu étais hors des autres personnes. Tu es différente des autres êtres humains. Je vis chez des parents ou chez des amis. Où que tu vives, du fait que tu ne restes pas dans la loi pour faire tout ce que tu as à faire, tu te retrouves sans aucun droit. Je me trouve ridicule et sans dignité. Là-bas, le salaire était ridicule, mais j'étais considérée. Je n'avais pas grand-chose, mais avant la guerre, je vivais comme il fallait. Une fois ici, c'est encore plus difficile, plus compliqué, du fait de la non-régularisation. Tu te poses 10 000 questions. Tu es là, partout tu as peur, dans les transports, que les policiers te prennent et te rapatrient. C'est une dégradation et une humiliation pour ta famille. S'ils t'attrapent, tu pars parfois toute nue sans tes affaires. Si c'était à refaire, non. J'essaierai d'autres solutions. Mais ce n'est pas facile de retourner comme ça. Maintenant, repartir, ce n'est pas possible. Je n'ai pas de mari, j'ai 2 enfants et je suis grand-mère là-bas au pays. Moi qui m'occupais de ma famille, je suis venue pour eux. Quand ma maman est décédée, je n'ai pas pu m'occuper d'elle comme il fallait. Je me suis mise dans une activité et je n'ai même pas de quoi acheter un visiophone pour les voir de temps en temps. Après la grève, si j'ai un salaire, j'achète 2 visiophones. Un pour là-bas, un pour ici. C'est dur pour ma fille là-bas. Elle travaille et pour garder les enfants, c'est compliqué. Quand je pense que je suis ici pour rien, mes petits-enfants ne peuvent même pas bénéficier de leur mamie. Les mots me manquent et c'est difficile.
Cette femme était gréviste depuis plus de 6 mois quand elle a donné ce témoignage-là. Il y a peut-être des témoignages, des questions, autrement on va vous en lire d'autres bouts, hein, il n'y a pas de problème. Ah, l'issue de la grève, très drôle. Tiens.
Oui, cette grève, je pense que ça a permis quelque chose quand même. On peut pas dire que ça a permis des régularisations. Il y a eu des camarades qui ont été régularisés par cette grève, mais aussi il y a eu d'autres problèmes. D'autres camarades se sont fait licencier du jour au lendemain, ont perdu leur emploi. N'étant pas régularisé, c'est quelque chose quand même qui s'est passé aussi, hein, parce que qui dit grève, c'est arrêt de travail, on travaille plus, on occupe les piquets, et on reste là-bas, on établit un rapport de force avec la préfecture et tout, et voilà, vu que c'était à l'époque la CGT, Solidaire, Droit Devant, mais ensuite Solidaire, je pense que c'est démarqué un peu, Droit Devant aussi. Y a eu des camarades qui ont été régularisés par les CRFA, ça veut dire que les patrons remplissent la CGT. Obliger les patrons en occupant les lieux de travail, que les patrons remplissent les CRFA. Donc ça a permis, beaucoup de camarades ont été régularisés par ce côté-là, mais aussi il y a eu des camarades qui n'ont pas été régularisés et qui ont perdu leur boulot aussi. Voilà.
Moi, je ne parlerai pas de victoire de la grève, du tout. Je pense qu'il y a eu... ça a soulagé un certain nombre de camarades, c'est sûr. Mais je pense que les choses sont énormément en train de se durcir. Parce que la précarisation, elle touche tout le monde. Alors, elle touche plus les sans-papiers que les autres. Mais quand on exige des certificats de... Mais quand on exige des contrats de travail, les Français en ont pas toujours. Donc, les sans-papiers en ont encore moins. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on n'arrive plus à avoir de CERFA, nous, là, par exemple. Donc, ça a aussi amené une certaine prééminence de la régularisation travail. Et on a énormément de mal à obtenir autre chose que la régularisation travail. Je ne parle pas des familles d'enfants scolarisés. La régularisation avec les enfants scolarisés, ça fonctionne encore. Mais sur les gens qui n'ont pas d'enfants scolarisés, il n'y a plus que la régularisation travail. On ne parle même plus de régularisation maladie. Et on exige le CERFA et la taxe. Et quand il faut payer 700 euros, on sait très bien comment ça se passe. C'est pas le patron qui paye les 700 euros. Ça se retrouve, le patron quelquefois avance l'argent et ça se retrouve sur les fiches de paye avec avance sur salaire, avance sur salaire. C'est un impôt sur le travail, c'est un nouvel impôt sur l'esclavage. Donc cette taxe, c'est les salariés qui la payent de fait. Ça, on le sait. Et de plus en plus, on n'obtient pas de CERFA. On obtient des gens qui ont des boulots, mais il n'y a pas le CERFA. Quelquefois, on a les fiches de paye, et ça, c'est quand même extraordinaire. On a tout de même une circulaire, la circulaire Valls, qui pérennise le fait qu'on demande des choses illégales. Moi, j'ai connu l'époque où si on mettait des fiches de paye dans un dossier de régularisation, le dossier, il était annulé. Parce que c'était totalement illégal. Maintenant, on vous donne quelquefois une autorisation provisoire de séjour de 3 mois où il est écrit, noir sur blanc, ce document ne permet pas à son titulaire de travailler, et la guichière qui vous dit, pensez à ramener vos fiches de paye. Vous n'avez pas le droit de travailler, mais pour être régularisé, il faut des fiches de paye. C'est écrit dans la circulaire. La circulaire est illégale en soi. Enfin, on marche sur la tête là-dessus. Et alors, le problème, c'est que maintenant, on a vraiment des camarades qui ne trouvent plus de travail, on va dire, régulier, 40 heures par semaine, quoi. Ça, ils n'y arrivent plus. Donc, ils bossent, bien sûr, ils bossent. Mais on n'a plus les papiers officiels qui correspondent au travail. Alors, on a une chance par rapport à des pays comme la Belgique, où en Belgique, le travail au noir est du vrai travail au noir. Parce que comme il y a un fichier central des travailleurs, les gens qui ne sont pas régularisés travaillent réellement au noir. En ce moment, ça tape à 2,50 € de l'heure, quand même. Heureusement qu'il y a des squats, hein, parce que s'il fallait payer un loyer, ce serait dur. En France, on peut travailler de manière illégale, en payant des impôts, enfin, etc. On arrive à aller négocier avec les inspecteurs des impôts, parce qu'il y a quelquefois une personne qui se retrouve avec 6 fiches de paye et sur son nom, on arrive à négocier que chacun paye sa part. Ça paraît ahurissant de penser des choses comme ça, mais tout ça, je veux dire, c'est le fruit de la négociation. On est sur de la négociation, on n'est pas dans la... Enfin, on est constamment... Il y a une loi unique, et puis ensuite on négocie. Quand on va négocier en préfecture tous les mois nos dossiers, il y en a qu'on obtient à l'arrache. Il y en a qu'on présente 3, 4, 5 fois avant de les obtenir. Et si on sort pas un peu dans la rue, si on fait pas un peu le buzz, on sait comment ça se passe en préfecture. La fois où on a été le mieux reçu, ça a été après l'occupation de la mairie. Voilà, ce jour-là, on a été reçus comme des rois. On a eu énormément de résultats. Bon, ensuite, on est un peu moins sortis et on s'est fait recevoir comme des chiens. C'est-à-dire que dans la négociation, la parole n'est même pas respectée. C'est-à-dire que on va négocier, on va obtenir que tous les dossiers qu'on présente au nom du collectif, il n'y a pas d'OQTF, pardon. Donc il n'y a pas d'obligation de quitter le territoire. Ça, c'est négocié. Ils nous le disent, on s'engage. Et puis les OQTF tombent. Ah bon, on vous avait dit ça? Non, mais c'est du grand n'importe quoi. On est dans un monde de vraiment, vraiment de fou, quoi. Là, on a régularisé une jeune fille qui a été d'abord suivie par RESF, qui est dans le livre que j'ai appelé Awa ou la jeunesse volée. Moi, c'est une jeune fille que j'ai connue, elle avait 17 ans, elle en a 23, elle vient d'être régularisée. Ça a été du grand n'importe quoi. Elle a eu des papiers, elle les a plus, ils l'ont retiré. Enfin, ils lui ont tout fait. Et la dernière fois, elle avait deux boulots à mi-temps. Elle avait un boulot à la paix à mi-temps quand même, ce qui était déjà pas mal, et un boulot dans un grand magasin à mi-temps. Il n'y a pas eu moyen que ça marche. Il a fallu se battre pour qu'elle obtienne un contrat à temps complet à la paix en étant sans papier. Il fallait quand même le faire. C'est quelqu'un qui avait plus de 22 interventions de politique dans son dossier, dont une de Vaillant lui-même, ancien ministre de l'Intérieur. On ne pouvait pas avoir mieux quand même. Et la dernière fois, on obtient enfin le fameux papelard. Enfin, on obtient tout et la guichetière qui nous dit « Mais vous avez bien de la chance de travailler, gna gna gna, parce que vous n'avez pas le droit, vous savez. » Ce jour-là, j'ai eu peur qu'elle explose. Parce que si elle n'avait pas eu son papier comme quoi elle travaillait à temps complet à la paix, elle n'aurait jamais eu sa régularisation. Et la guichetière se permet de lui dire « Mais vous avez bien de la chance. » Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? On vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Et c'est presque écrit dans la loi. Enfin, on marche sur la tête, hein, on le sait. Mais en attendant, c'est des gens qui souffrent.
Oui, c'est des choses qui ont peut-être déjà été dites. Je m'excuse, je suis arrivée en retard. Mais moi, je connais au moins deux copains qui ont fait la grève de A à Z. Un a été régularisé il n'y a pas un an. Un monsieur qui avait 17 années de France et de travail, donc, avec deux gros accidents de travail qui font qu'il a du mal à trouver du boulot maintenant, forcément. Des accidents de travail qui n'ont pas été reconnus, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il a été régularisé à l'usure parce qu'il y a des gens autour qui n'ont pas lâché. Et j'ai un autre copain qui n'est toujours pas régularisé. Et lui, il est en pleine forme, en pleine santé. Le problème, c'est qu'il était dans une toute petite boîte au moment de la grève, qui n'a évidemment pas voulu faire de CERFA. Il n'y avait pas de rapport de force dans la boîte. Et puis depuis, il travaille parce qu'il faut. Mais il y a des moments, il ramasse dans les poubelles pour aller vendre aux puces. Aux puces de Montreuil, où régulièrement, on lui pique ses affaires. La petite recette qu'il a pu faire de misère dans la journée, il vit comme ça. Et il n'a toujours rien. Alors qu'il a fait toute la grève. Et que c'est un type assez extraordinaire parce que pendant la grève, quand on était notamment à Bastille et que parfois il faisait un temps de chien, il tombait des cordes et tout, on lui apportait un kawé, le lendemain il n'avait pas de kawé. Qu'est-ce que t'as fait du kawé? Tu l'as perdu? Ben non, je l'ai donné, il y avait un autre mec qui avait plus grande difficulté que moi, donc voilà. Voilà, et ce gars-là, il n'est toujours pas régularisé. Donc si vous avez des idées...
Excusez-moi, je voulais juste rajouter par rapport à cette circulaire. Je pense que voilà, cette circulaire, elle ne règle pas le problème. Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, d'un côté, vous nous demandez des fiches de paie. Parce que les fiches de paie, si tu n'as pas une carte de séjour, tu ne peux pas les avoir. C'est pousser voilà, les camarades à aller chercher n'importe quoi, des papiers pour travailler. On ne veut que travailler. La préfecture demande des fiches de paie pour régulariser la personne. Si elle n'a pas de fiches de paie, on ne peut pas. Si tu n'as pas de carte de séjour, tu ne peux pas avoir de fiches de paie. Et du coup, il y a d'autres personnes qui travaillent à l'aide à la personne, qui gardent les enfants et tout, qui travaillent au noir. Et ces gens-là, comment les régulariser? Il y a ce problème, cette circulaire-là, il y a ces gens qui sont oubliés. Du coup, nous, les collectifs, on avait du mal, nous, on demandait la régularisation de tout le monde. Tu es en France depuis plusieurs années, il faut régulariser les personnes qui sont en France. Voilà. Maintenant, cette circulaire-là, ça a permis, il y a des camarades, des patrons qui remplissent des CERFA et que le camarade dépose sa demande. Il est régularisé. Il y a quelque chose que le patron devrait payer. Ben, c'est déduit de son salaire voilà, en complicité avec le patron. Un autre problème aussi, c'est que quand il est régularisé par le patron, maintenant, voilà, il est à sa merci. Ça veut dire qu'il va faire des heures impossibles et que s'il arrête le boulot, parce que ça nous est arrivé, des camarades, le patron les pousse à démissionner et du coup la préfecture ne renouvelle plus le titre de séjour et du coup il redevient sans papier. Il y a ce problème-là, c'est emmerdant et nous on est en train de lutter pour que cette circulaire-là tienne en compte ce problème-là, qu'on l'abroge d'un seul coup. Autre problème, le travail au noir, l'exploitation des patrons, que la préfecture, on n'en parle pas, parce que des gens qui travaillent, l'aide à la personne, garde des enfants et tout, depuis plusieurs années, que la préfecture ne voit pas comment les régulariser. Nous, des fois, il y a des gens qui sont là 10 ans, 13 ans, 14 ans, ne sont pas régularisés. On nous demande d'avoir des preuves, on fournit les preuves, et en fin de compte, voilà, c'est un équité, vous quittez le territoire alors que vous avez fait 13 ans, 14 ans dans ce pays. Ce n'est pas normal du tout.
On a connu jusqu'au début du XXe siècle la sale époque du livret ouvrier, où les ouvriers qui avaient fait grève, qui n'étaient pas assez dociles, mais ne pouvaient plus retrouver de travail, on en est au même point. On est en train de revenir au livret ouvrier. Puisque quand on est régularisé par le travail, si on perd son travail, on n'est plus régularisé. Donc c'est la précarisation généralisée. Là-dessus, les pouvoirs publics jouent le jeu complètement. Sur la page 101, je ne vais peut-être pas vous la lire là, il y a l'histoire de sa fille. Sa fille qui a été régularisée et qui a depuis plus de 5 ans, de manière là tout à fait illégale aussi, des contrats à temps partiel à durée déterminée sur la ville de Paris. Et ça fait plus de 5 ans que ça dure. Presque toutes les dames des cantines de la ville de Paris, je ne sais pas pour la banlieue et je ne sais pas pour les villes de province, mais en tout cas pour la ville de Paris, et vous ne pourrez pas me dire que c'est une commune au bord du gouffre financier, qui emploie des gens en contrat à durée déterminée à temps partiel. Ça lui fait dans les 700-800 euros par mois. Elle a un loyer HLM, donc elle a heureusement une petite allocation HLM. Elle a deux filles à charge, dont une très malade, et démerde-toi avec ça. Il y a eu une année, elle a gagné un tout petit peu plus, elle a dû rembourser son complément de Pôle emploi. C'est ahurissant. Enfin, contrat à durée déterminée à temps partiel pour une femme qui a près de 40 ans et qui a deux gosses à charge, et depuis plus de 5 ans, c'est illégal. Alors, que font les syndicats, ça je ne sais pas. J'ai pas réussi à en intéresser un seul à la question. Mais ces femmes ne peuvent pas se défendre. Elles sont beaucoup trop précarisées. Elles ont beaucoup trop peur. Elles-mêmes, toutes seules, elles ne se défendront pas. C'est pas, il y en a pas une qui va aller trouver la mairie en disant un truc parce qu'elles sont meurtres de trouille. Quelqu'un veut dire que pardon.
Excusez-moi. Moi c'est Diallo Mamadou, je suis délégué du collectif de sans-papiers de Vitry-sur-Seine. Je vois que la situation des sans-papiers ça inquiète, c'est vrai, mais il y a d'autres qui ne s'attendent pas à cette situation. Mais ne soyez pas impressionnés, c'est quelque chose qui est calculé. Ça, nous sommes des cadeaux fiscaux que l'État offre au patronat, en plus de milliards qui ont été donnés au patronat, il y a eu les sans-papiers qu'on ne déclare jamais, qu'on ne parle jamais. Donc ça, c'est dans la logique du gouvernement. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils sont là pour ça, de l'esclavage à la colonisation. Ils sont au service du capitalisme. Ils sont au service des multinationales qui pillent les nations. C'est une continuité. C'est pas du tout. Pour celui qui ne connaît pas, les gens pensent que c'est hors la loi. Non, la loi, ce sont eux qui font la loi pour eux-mêmes. Et ils sacrifient les gens qu'ils veulent. Les sans-papiers sont des gens, des prolétaires, qui ont fui leur pays suite à des politiques capitalistes qui ont pillé non seulement l'environnement. Actuellement, avec l'alternance des saisons en Afrique, les cultivateurs ne parviennent plus à travailler comme d'habitude, comme ils avaient l'habitude de le faire. Les pluies sont rares, les paysans quittent la campagne, ils viennent à la capitale, ils ne trouvent pas de meilleures conditions de vie à l'arrivée. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut partir. Donc, c'est ces gens qui se retrouvent ici, et une partie qui produit part. Les gens qui nourrissent la population. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des maçons qui suivent, parce que le maçon, il fait du béton, mais on ne mange pas le béton. Donc, c'est ces gens-là qui se retrouvent ici. C'est les politiques de là-bas qui nous ramènent ici. Mais ça, c'est sciemment fait. L'État veut fournir une main-d'œuvre à bon prix, une main-d'œuvre qui coûte moins cher aux entreprises françaises, au nom de la compétitivité. Or, nous savons tous que je ne sais pas si c'est un tiers ou c'est trois quarts des entreprises françaises sont des entreprises de services qui ne demandent pas de compétitivité. Une entreprise de nettoyage ne compétit pas, ne fait pas la concurrence avec une entreprise de nettoyage chinoise. Donc, tout simplement, c'est quoi? C'est l'accumulation. C'est marcher sur les gens, c'est sacrifier des vies, c'est mépriser des gens au coup du canon. Parce que nous sommes les plus forts, nous avons le canon, c'est tout. Donc la situation du sans-papier, ça profite à qui? Ça profite aux gens qui sont là, aux capitalistes, ça profite non seulement à l'État, mais ça commence toujours par les plus faibles, mais ça ne s'arrête pas aux plus faibles. Aujourd'hui, on demande aux Français de travailler le dimanche, et il arrivera un jour, ce sera les retraites. Nous avons vu des villes aux États-Unis, je ne sais pas si c'est à Illinois, où les gens qui ont cotisé toute leur vie, ils ont perdu leur retraite. C'est comme ça le capitalisme. C'est ça, ils ont des politiques cannibales. Ils sont là pour bouffer les gens. Donc nous sommes aujourd'hui à la maison. Nous sommes à la maison. Nous sommes la proue à fixer à la maison. Ils sont en train de faire la pêche. Mais ça finirait pas par les sans-papiers. Donc nous remercions les gens qui sont avec nous. On ne vous dit pas de soutien. On dit les gens, la France, pour nous, c'est vous la France. C'est vous qui nous avez accueillis ici, dans les rues, dans les préfectures, dans les centres de rétention. C'est vous qu'on voit. Pour nous, c'est vous la France. Pour nous, la France a beaucoup de définitions. Il y a la France qui attache un sans-papier, qui met le scotch, le jette dans l'avion. Ça, c'est notre France. Il y a la France, c'est notre policier qui est là, qui étrangle le sans-papier, qui fracture sa trachée. C'est un cadavre qui rentre au pays, trouve des gamins, des orphelins, dans des pays où il n'y a pas de DAS. C'est aussi la France. Voilà, il y a une autre France qui fait travailler sans papier dans l'amiante, des gens qui n'ont pas fait la formation, qui travaillent sous alliance, qui ne pourront jamais avoir des choses déclarées, leur accident de travail ou maladie professionnelle. Ils travaillent sous alliance le plus souvent. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec une carte d'un monsieur qui avait, je ne sais pas si c'est 45. Donc, excusez-moi, j'ai pensé tout seul.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on nous a toujours divisés. Il n'y a pas les sans-papiers et nous. Il n'y a pas les étrangers et les Français. On a toujours accueilli les étrangers comme des chiens. Et on a commencé par les étrangers de l'intérieur. Au XIXe siècle, on disait que les Auvergnats n'étaient pas intégrables dans la République française parce qu'ils étaient alcooliques et dégénérés. Je rappelle que Bécassine, c'était une bande dessinée raciste. Moi, la première insulte raciste que j'ai entendue, c'était breton. Breton, ça voulait dire alcoolique et dégénéré de la hanche et consanguin. Et bas breton, alors là c'était encore pire. Les Bretonnes qui arrivaient à Paris au XIXe siècle, qui disaient baragouin, baragouin, qu'est-ce que c'est que ce baragouin? Du pain et du vin. Elles épousaient qui? Quand elles n'étaient pas prostituées ou Elles épousaient qui ? Elles épousaient les Kabyles qui ont été les premiers conducteurs du métro. Au XVIIIe siècle, après la révocation de l'édit de Nantes, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé massacrer les ouvriers du meuble des Flandres parce qu'ils étaient protestants. On a massacré des Italiens. On a toujours accueilli les étrangers comme des chiens. Mon grand-père, il est arrivé en France avec la retirada, l'armée républicaine en armes. Il a été accueilli sur la plage d'Argelès, il n'y avait même pas un trou pour pisser. Et à cette époque-là, quand on parle d'envahissement, il y avait plus d'Espagnols que de Français dans les Pyrénées-Orientales. Et puis il est allé directement d'Argelès à Collioure. Et puis ensuite, la suite, c'était quoi ? C'était des camps de concentration en Allemagne. Mais c'était, on a toujours accueilli les étrangers comme des chiens et on a toujours fini par les intégrer. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours travaillé la division. On a toujours, le système capitaliste perdure parce qu'on a toujours, parce que le truc a toujours marché. Moi, j'ai des droits, celui-là, il va me prendre les miens. C'est l'inverse qui se produit. La situation des sans-papiers actuellement, c'est la situation de nos enfants demain. La situation, les retraites, la sécurité de l'emploi, etc. Tout ce qui est en train de se dévaloriser, tout ce qui est le lot des sans-papiers, c'est vraiment ce qui nous arrive maintenant. Ça, c'est très important. Il y a une anecdote que je rappelle toujours. Dans les années 60, aux usines Renault, les Algériens bouffent dehors. Les Français mangent à la cantine, au chaud. On leur interdit pas de manger aux Algériens. Seulement, il y a toujours du porc à la cantine. Imaginez la force du syndicat si la première revendication du syndicat avait été, on veut que nos camarades y mangent avec nous au chaud, on veut qu'il y ait autre chose que du cochon à la cantine. À ce moment-là, une grève chez Renault s'aurait pris notre gueule quand même. Enfin, on meurt de toutes ces occasions ratées, on meurt de toutes nos divisions. C'est-à-dire que les votes protestataires de droite qu'on voit actuellement, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ne sont pas comme nous, ils vont nous prendre nos petits avantages. Et on s'aperçoit des changements de mentalité. Moi, je sais que sur une école, j'ai eu une fois une instit qui m'a demandé la solidarité avec des non-grévistes. Et j'ai essayé de lui expliquer que moi, c'était plutôt le goudron et les plumes, la solidarité avec les non-grévistes. Mais vraiment, elle ne comprenait pas. Ben, t'as fait grève, tu prends tes responsabilités. Quand on a voulu supprimer mon boulot, parce qu'il y a 5 ans, on a eu un ministre qui a dit « Les rééducateurs, ça vaut rien, que de toute façon, vous allez disparaître, retournez dans les classes. » Moi, j'ai dit « Je le ferai pas. Je le ferai pas. » Et on s'est battu comme des chiens. Et notre boulot, la rééducation, les RASED existent toujours. Alors qu'il y a 5 ans, on était inconnus. C'est-à-dire qu'on s'est battu comme des malades pour pouvoir garder notre boulot. Et moi, j'avais des jeunes instits qui démarraient, qui disaient « Mais si on te donne l'ordre, il faudra le faire. » Et moi, je disais « Non, je le ferai pas. Je le ferai pas. » À chaque fois qu'un inspecteur, il m'a fait chier, j'ai dit non. La liberté, ça se gagne aussi. Et je m'aperçois chez les jeunes générations que cette culture de défendre ses droits, les siens et les autres, eh ben, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et ça, c'est vraiment, on a un vrai travail. Moi, je fais un peu des tournées dans toute la France autour du livre, et je m'aperçois, j'ai les moins de 25 ans et les plus de 50. Et au milieu, j'ai personne. Alors j'ai envie de vous rappeler une phrase de Mumia Abou-Jamal, qui est très malade d'ailleurs, il faudrait peut-être envoyer des cartes postales, je vous en supplie, parce que là, c'est encore quelqu'un qui va crever en prison après 35 ans. Il disait, vous dites qu'il y a des générations perdues, allez les chercher. Dans les manifs de sans-papiers, il n'est pas normal qu'il y ait 90% d'Africains et quelques Blancs autour. Les gens, il faut aller les chercher. Quand on manifeste, quand on fait des trucs, il faut réécrire des tracts, il faut aller voir les gens, il faut aller les chercher. Il faut se battre sur le terrain. Il faut se battre sur le terrain. Il faut pas se battre sur des grands principes comme ça. Il faut se battre, il faut voir les gens, il faut voir les voisins. Il faut refaire du porte-à-porte, il faut refaire les sorties de métro. Il faut rameuter une personne, 2 personnes, 10 personnes. Parce que il y a que comme ça qu'on va gagner. Parce que si on reste tout seul avec la petite bande, nous, je veux dire, on est entre nous, on a raison, on est les gens bien. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai rien à me reprocher. Si je vais pas chercher ceux justement qui râlent et qui savent pas ce qui se passe, si on va pas les chercher, on a perdu. C'est valable pour toutes les luttes. Alors là, visiblement, ça reprend un peu dans la santé, j'espère, parce que si ça reprend pas dans la santé, on pourra plus se faire soigner. Enfin, quand on en est à discuter du prix d'un scanner pour arriver à avoir... Enfin, moi, je veux dire que j'ai discuté, j'avais un scanner à me faire faire, j'ai fait plusieurs centres, ben, c'était 200 euros, puis finalement 70, en fait. Mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit si on en est à discuter du prix des examens médicaux ? Parce que c'est ça qui nous prépare. Et donc, si on va pas chercher tous ces gens-là, si on leur explique pas les fondements de la société, les fondements de ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que le vivre ensemble, on est foutu. Et il faut aller trouver tous ces gens-là, tous ces gens qui pensent mal, tous ces gens qui disent des conneries. Il faut aller les voir, il faut discuter dans le métro, il faut discuter partout.
parler à la fin.
Bon, on a encore une petite plage pour les discussions, les questions, s'il y en a encore, ou des interventions. Je m'excuse du coup d'avoir interrompu parce que je pensais qu'on n'aurait pas assez de temps.
Salut tout le monde. Moi c'est Diaguité Adama. Je fais partie du collectif du 17e de Paris, comme l'a dit Ablaye et Marie-Cécile. En fait, là, je ne vais pas commenter les livres, mais j'aimerais bien que vous en achetez pour bien lire. Et puis, comme ça, vous allez comprendre ce que c'est qu'un sans-papier comme moi. Et j'ai un remerciement à faire par rapport à tous ceux qui soutiennent un sans-papier du début, de leur trajet jusqu'à la fin.
Oui, mais je pense qu'il vient, il est capable de la demander, je pense. Hein.
On va leur demander tout seul. Non, mais vous avez peut-être des choses à dire. Enfin.
Bon, attendez, chacun est libre de parler ou de ne pas parler. Voilà. Je dis qu'il y a encore 10 minutes, s'il veut parler, il n'y a aucun souci, mais je ne pense pas qu'il y a lieu de l'agresser pour l'obliger à parler non plus. Voilà, c'est tout.
C'est pas grand-chose que je voudrais dire, en fait, mais on parle beaucoup des ouvriers et tout ça. Et moi, quand j'étais en terminale, en fait, il y a une jeune fille qui est arrivée. Elle était sénégalaise, elle est passée aussi par l'Italie, et en fait, elle n'était même pas sûre de pouvoir passer son bac, parce qu'elle n'avait pas les papiers suffisants, et nous, parce que vous dites qu'il faut nous prendre par la main et tout, et nous, notre équipe éducative nous a dit, vous vous taisez, vous faites rien, parce qu'il voyait qu'on commençait à dire quelque chose, et qu'on n'était pas d'accord avec ça, et qu'on voulait qu'elle ait son bac, parce que c'est une jeune fille qui travaillait énormément, qui a fait beaucoup d'efforts, et au final, elle a eu son bac, et elle s'en est très très bien sortie. Et voilà, et je suis vraiment contente pour elle et je trouve ça vraiment bien ce que vous faites. Et voilà, donc effectivement, il y a tout ça, les ouvriers, mais il y a également les jeunes qui viennent à l'école et qui n'ont pas non plus leurs papiers. Et aussi, je pense qu'il faudrait être derrière eux, quoi, vraiment.
Juste un petit témoignage perso, parce que j'en suis quand même très fière. Ma fille était jeune, elle était en seconde, elle est arrivée dans un grand lycée parisien et je lui avais cité la phrase « Fais en sorte qu'on te distingue et non pas qu'on te remarque » parce que bon, elle a quand même une certaine personnalité. Dans sa classe de philo, elle était en seconde, il y avait un élève brillant, sans papier, qui allait être expulsé. Donc elle a dit « Comment je fais ?» Ben, je lui ai dit « Tu fais comme les jeunes de RESF, tu te débrouilles ». Elle m'a dit, mais les parents, vous allez nous aider? Bah oui, quand même, un peu, parce qu'elle était bien jeune. Elle a fait des tracts avec des gens de première, de seconde. Ils sont allés voir le proviseur, les machins. Ils étaient 300 à Saint-Lazare. Le jeune a été régularisé. Et le proviseur ne l'a jamais oublié.
On prend encore une ou deux questions si, d'accord, bon. Ah.
Oui, non, puisque tu as parlé du RESF, donc, et que là, on aborde beaucoup le RESF, effectivement. Donc, je suis RESF, hein, comme Marie-Cécile. Et effectivement, la mobilisation, quand cette petite jeune parlait de la mobilisation des camarades, de leurs camarades, c'est hyper important. Et là, on le voit beaucoup quand les lycées se bougent, quand des jeunes se retrouvent en difficulté. Là, actuellement, il y a pas mal de jeunes qui sont à la rue. Les lycéens, les collectifs des lycéens, l'UL, c'est les jeunes, le syndicat des lycéens a décidé de les loger. Donc il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de solidarité pour les jeunes, et c'est ça qu'il faut continuer et se battre, parce qu'on le sait très bien, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Là, j'ai amené un jeune, moi aussi, qui est à la rue, qui est sénégalais, tiens, je te le présenterai peut-être, voilà, qui est en CAP, qui espère continuer à faire des études et à travailler, et voilà, et pour l'instant, il vit dans une cuisine. Voilà, il dort dans une cuisine parce que pour l'instant il n'a pas été pris en charge par l'ASE, et voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aussi qui ne sont pas pris en charge par l'ASE. Je vous invite à venir signer la pétition qu'on a mise sur le stand RESF contre les tests osseux. Hein, parce que ça, c'est une ignominie de continuer à se baser, à dire que des jeunes sont majeurs sur des tests osseux qui sont plus valables déjà. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci.
Moi, je voudrais rajouter quelques mots sur les enfants. Parce que Benassayag l'a très, très bien dit. Les parents, les adultes, ils ont choisi de partir. Quelquefois, ils ont été un peu poussés aux fesses, mais ils ont fondamentalement choisi. Ils savent ce qu'ils ont fait. Les enfants, eux, ils n'ont pas choisi. Ils sont parfois même nés ici et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et ce sont les grands, grands, grands perdants de la chose. Parce que ces enfants-là, ils vivent dans la précarité, ils vivent dans la peur, ils vivent quelquefois dans la trouille. Et ils comprennent pas pourquoi on risque d'arrêter papa. Parce que papa, il a rien fait. Et moi, je sais que sur les permanences, la première chose que je dis aux enfants quand il y a des enfants, c'est, je leur dis toujours, il faut que tu sois super fier de tes parents. Parce que tes parents, ils ont fait un voyage difficile, douloureux, pour que toi, tu aies une belle vie. Et je voudrais juste vous lire un petit billet sur un petit gamin. C'est une petite séance de rééducation. C'est l'histoire de Petit Mousse. Il a 4 ans, Petit Mousse. C'est un petit de 4 ans dont les parents sont sans papier après en avoir eu pendant un temps. Il ne sait pas jouer, il ne parle pas. Il paraît toujours fatigué. Il ne veut jouer qu'au poupon, lui donner le biberon et le promener en poussette. Lundi dernier, j'avais installé un grand circuit de train parce que je voulais qu'il joue un peu à autre chose. Il n'avait même pas l'idée de faire le tour de la table pour faire avancer le train. Alors il se penchait au-dessus de la table et il renversait tout. Et puis, je m'aperçois qu'il ne joue que d'une main. Je réussis à lui faire sortir la main de la poche. J'avais peur qu'il soit blessé. Il avait le poing droit tout fermé sur un ticket de RER sur lequel il était marqué Roissy. Ce gamin vient de Roissy à Paris tous les matins, plus d'une heure de transport. Et il serre son ticket parce que c'est le seul truc qu'il raccroche à sa maison qui doit être un hôtel provisoire. Et moi, je travaille en CAPP, je n'ai que des gamins qui sont à 15 dans 12 mètres carrés, qui sont dans des logements provisoires précaires, et c'est souvent 700, 800 euros par mois. Et après, on leur demande évidemment de travailler comme les autres et d'être aussi bons que les autres. Et c'est pas possible. Et ça, on est en train aussi de sacrifier toute une génération.
Je voudrais juste revenir, puisqu'on était quand même au départ sur la grève des travailleurs sans papier, sur ce que tu as dit tout à l'heure, Noulet, sur le fait que c'est un petit peu une course. Ils demandent des bulletins de paye alors que c'est interdit de travailler quand on n'a pas de papier. Alors effectivement, ça me rappelle l'idée que quand on travaille, au bout d'un certain temps, si on a survécu aux conditions de travail difficiles, on peut avoir droit à une médaille du travail, des choses comme ça, je ne sais pas combien de temps il faut, 20 ans, 30 ans. Le titre de séjour, c'est un petit peu pareil, c'est une espèce de médaille. Une médaille, quand on a franchi 15 obstacles, 10 obstacles, 50 obstacles, quand on a survécu, quand on n'a pas été pris, quand on n'a pas été arrêté, renvoyé. Et effectivement, il faut tenir le coup. C'est comme ça. La préfecture, par exemple, la préfecture de Nanterre, qu'on connaît un petit peu, là-bas, effectivement, ils acceptent, si vous avez travaillé sous un faux nom, ils acceptent quand même ce qu'ils appellent les alias, au bout d'un certain temps, si vous avez des feuilles de paye qui ne sont pas votre nom, malgré tout, si le patron accepte de signer un papier, ils peuvent vous donner le titre de séjour. Il faut juste avoir franchi ces X années, etc. C'est pareil si vous avez un faux titre de séjour. Quelque part, si vous avez réussi à tenir le coup, survivre en étant surexploité pendant des années, des années, des années, si vous pouvez prouver avec des preuves, et ils en demandent de plus en plus, peut-être, oui, vous avez droit à un titre de séjour. C'est vraiment la course d'obstacles, la survie. Donc, effectivement, c'est la surexploitation pendant des années et des années. Mais après, ça devient peut-être possible. Alors, évidemment, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à franchir toutes ces étapes, qui sont rejetées avant, qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas prouver, qui perdent des preuves, etc. Donc, c'est une manière. Et avec, bien sûr, ça donne tout un tas de marge de manœuvre. Les préfectures sont plus ou moins clémentes selon le cas. Et puis, ça peut, bien sûr, se durcir très facilement selon le cas. Alors, c'est pour dire que c'est difficile. Et tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle tout à l'heure le rapport de force, et même, c'est bien, il n'y a pas grand-chose qui soit possible, c'est du cas individuel. Et même quand il y a le rapport de force, qu'on a dit dans le cas des grèves, le problème, c'est qu'il y a le rapport de force au moment où c'est décidé. Effectivement, le préfet ou le ministre peut décider qu'il y aura quelques titres de séjour qui seront accordés, mais après, ça redevient de l'individuel. Et tant qu'il n'y a pas un grand mouvement, on va dire, social qui puisse permettre d'obtenir des titres de séjour automatiquement, ça reste quelque chose de très difficile, individuel. Quoi.
Pour conclure, moi, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que hier, il y avait une grande manifestation qui s'appelait « Des pompes à des murs », qui rappelait quand même que des milliers de mecs meurent en Méditerranée ou dans le désert, et que ce à quoi on assiste actuellement, c'est un génocide. Ça ne s'appelle pas autrement. Alors, on peut toujours s'amuser à chercher pourquoi ils viennent et pourquoi pas, et qu'ils seraient mieux là-bas, etc. Le fait est qu'ils viennent. Et que plus on durcira les conditions d'entrée, plus les passeurs feront des conditions difficiles, et plus il en viendra. Parce que de toute façon, personne n'a jamais empêché les gens d'aller regarder de l'autre côté de la montagne ou de l'autre côté de la mer si l'herbe ne serait pas plus verte. Le voyage, c'est dans nos gènes depuis la nuit des temps. Et personne n'empêchera les gens de fuir des pays en désespérance pour un hypothétique avenir radieux. De toute façon, on n'empêchera pas les gens de passer. Il en mourra 1000, il en mourra 10 000, mais il en passera toujours. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est que le problème des papiers, c'est pas un problème de morale. C'est pas parce qu'on est gentil. C'est simplement parce que tolérer chez nous des gens qui n'ont pas les mêmes droits que nous, ça met nos droits à nous en danger. Ça nous met nous-mêmes en danger. Outre le fait que j'ai pas envie de vivre avec la moitié de la, avec la, avec une partie de la population qui n'a aucun droit. J'ai pas envie de vivre de la partie, moi qui suis de la partie non esclavagée, avec des gens qui ont quasiment un statut d'esclave. J'ai envie de vivre dans un monde solidaire. J'ai envie de vivre dans un monde un peu plus sympathique. Mais c'est aussi une question de survie. C'est parce qu'on expérimente sur les sans-papiers toute la destruction du code du travail. On expérimente sur les sans-papiers toute la destruction de nos libertés. On ne va pas faire tout le listing de tout le déticotage de 45 qui se prépare, mais on est en train de nous proposer un monde de plus en plus ensauvagé. On est en train, c'est exactement ce qu'on expliquait au débat d'avant. On est en train de nous individualiser et on est en train de nous briser totalement et de faire qu'on soit plus que des fétus de paille soumis au patronat. Et les sans-papiers servent de laboratoire à ça. C'est sur les sans-papiers qu'on s'appuie pour pouvoir s'attaquer aux autres. Donc se battre pour les sans-papiers, c'est se battre pour nous. Se battre pour les droits des sans-papiers, c'est se battre pour nos droits.
Merci beaucoup d'être venu. Donc là, si vous voulez, le livre donc, de Marie-Cécile est en vente à côté. Il fera peut-être que tu te déplaces,
oui,
s'il te plaît.
Ça, c'est tous nos
exemples. Et voilà, ça c'est à moi. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant commencer le débat avec Désiré et Alain Frappier sur le choix d'avoir des enfants ou pas et le rappel de la lutte pour la liberté de l'avortement en bande dessinée. Voilà, on va commencer tout de suite.